Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour une grande émission de Torah et de pensée juive, Kabbalat Shabbat. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, l'Isrout Rabbi Meir. Quand même, grosse journée pour nous aujourd'hui. Hein.
C'est,
Et Pessah Sheni et le souvenir d'un des plus beaux et des plus grands maîtres de la Torah, Rabbi Meir, Baalanes. C'est son jour aujourd'hui. Et donc, on est sous sa bénédiction. Il paraît en plus, je sais que ça apporte plein de brachot. Et on avance dans notre étude de la paracha. On est maintenant en parachat Emor. Et il y est développé une notion qui est probablement l'une des plus connues et des moins comprises de la Torah, qui est celle de pureté et d'impureté. On comprend le bien et le mal. On comprend ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Enfin, on comprend. Au moins, on peut se faire une idée. On peut voir. Le pur et l'impur, franchement, en tout cas, je parle de moi, c'est probablement l'idée la plus difficile à saisir. Je vois, par exemple, dans les relations entre hommes et femmes, on ne peut pas dire que l'un des deux est impur tout d'un coup. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne le vois pas comme ça. Je me dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et il y a quelque chose que je comprends encore moins, c'est le rapport très important du Cohen avec la notion de pureté. Là, pour le coup, on est dans l'ésotérisme où je n'accède pas. Et donc, Rav Eli Lemel, est-ce que vous pouvez faire un peu de, comme on dit en hébreu, un peu de seder? Est-ce que vous pouvez essayer de mettre un peu d'ordre dans nos idées face à toutes ces notions que je viens de brasser de manière très, très approximative et très rapide?
Oui, enfin, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre un peu d'ordre, mais on va essayer d'ouvrir quelques
pistes. Un peu de lumière, ça sera déjà très bien.
Exactement, justement, vous avez démarré avec Rabbi Meir, et je vous rappelle que Rabbi Meir, eh bien, c'est or, c'est la lumière, Meir, c'est celui qui éclaire. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vous savez que Rabbi Meir a appris la Torah d'un maître qui s'appelait Acher. Acher, c'est celui dont on dit c'est l'autre. Alors c'est très curieux parce que normalement, il avait un autre nom, c'est Elisha ben Abouya. Mais malheureusement, Elisha ben Abouya, pour différentes raisons, va se retrouver être ce qu'on appellerait aujourd'hui un apostat. Mais néanmoins, il a des connaissances gigantesques. Et Rabbi Meir eh bien, continue à fréquenter ce maître. Et tout le monde s'étonne, mais dit, mais comment peux-tu apprendre la Torah d'une personne pareille qui a des connaissances, mais qui a complètement mis de côté ce qu'on aurait appelé aujourd'hui la pratique religieuse des commandements. Et on nous dit que Rabbi Meir, Toro Achal ou Klipato Zara, qu'il a consommé l'intérieur du fruit et il a rejeté sa pelure. Alors, c'est un enseignement d'ailleurs que j'ai entendu de mon épouse qui me posait la question très simplement, mais au fond, pourquoi est-ce qu'il y a marqué qu'il mange l'intérieur et qu'il jette la pelure de manière générale dans un fruit? On prend d'abord la pelure, on l'enlève, d'accord? On enlève de la peau de banane et puis après on mange la banane. Et là, c'est le contraire. L'explication qu'elle m'avait proposée est la suivante, c'est qu'au fond, et je crois que c'est au nom du Rav Jacobson qui dit que la force de Rabbi Meir, c'est d'abord d'avoir su voir d'abord ce qu'il y avait à l'intérieur. Et après, bien sûr, il a mis de côté tout ce qui pouvait poser problème. Et c'est très intéressant, on ne peut éclairer le monde que dans la mesure où on voit d'abord la clarté qui est présente chez l'autre en premier lieu, que c'est ça l'élément premier que l'on remarque. Et puis le reste, bon, mais après, on essaye de le mettre de côté. Alors voilà, ça c'était juste, puisque vous avez évoqué Rabbi Meir, et je trouve que cet enseignement est absolument merveilleux, c'est une leçon de vie pour nous tous. Pureté et impureté. Alors là, je vais vous rapporter un enseignement que j'ai entendu de mon père, et qui m'a beaucoup éclairé sur ces notions-là. Il donnait l'exemple suivant, il disait, regardez, quand vous prenez de l'eau, c'est H2O, d'accord, hydrogène, oxygène, vous pouvez trouver cette combinaison sous différentes formes, liquide, gazeuse ou solide, des glaçons, de la vapeur ou de l'eau. Et vous êtes bien d'accord que chaque fois c'est la même chose, si ce n'est que si vous voulez vous rafraîchir avec de la vapeur d'eau, ça va être un peu compliqué. Si vous voulez boire un glaçon, ça va être aussi un peu compliqué. Si vous voulez vous rafraîchir avec de l'eau, oui c'est possible, mais c'est quand même mieux avec un glaçon. Au fond, nous sommes ici avec le même élément, mais qui a des formes différentes et qui, chaque fois, est adapté à une réalité différente. Et si on regarde le texte, eh bien, la notion d'impureté dans la Torah est liée à la notion de finitude, à la notion de la mort. Non pas de la mort dans cette dimension pesante, même si c'est bouleversant, mais la mort, au fond, c'est l'univers de la finitude. Et on le voit d'ailleurs, puisque lorsqu'on est en contact avec quelque chose qui est lié à la mort, eh bien, cette impureté émerge. Et une femme qui a son cycle, eh bien, a cette dimension-là, parce que c'était une vie impossible, qui n'aboutit pas. D'ailleurs, sachez que quand un homme a une émission de matière séminale, eh bien aussi, il y a une impureté qui est là. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a des milliers de spermatozoïdes qui n'ont pas abouti, qui auraient pu faire advenir quelque chose. Et il n'y a rien de péjoratif dans cette dimension-là d'impureté. Alors que souvent, c'est comme ça que c'est véhiculé dans nos sociétés. L'impur, c'est celui que l'on rejette. Pas du tout, mais il ne peut pas à ce moment-là s'inscrire dans quelque chose qui est du domaine de l'infini. Donc, au niveau du couple, on ne peut pas se retrouver tant que justement on n'a pas été au mikvé, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu cette immersion dans ce bassin dont la base est de l'eau de pluie. Et mikvé vient de la racine tikva, qui veut dire l'espoir. C'est la notion de régénérescence. On sait très bien que l'eau de pluie, c'est l'eau qui est toujours là depuis la création de l'univers, puisqu'elle est là, et puis elle disparaît, et elle redescend à nouveau. Cette idée de cycle. Et donc, le Bet Hamikdash, le temple de Jérusalem, eh bien, c'est le lieu du contact privilégié avec la dimension d'infini qui est liée au divin. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les lois de pureté et d'impureté étaient très, très présentes, parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans un lien fort avec l'infini si on est confronté à cette dimension de finitude à l'intérieur de nous-mêmes, de par le contact qu'on aurait pu avoir avec elle. Et donc, c'est la chose, je crois, fondamentale. Il n'y a pas de connotation péjorative, malheureusement. Beaucoup de personnes lui ont donné cette connotation péjorative, va des rétro l'impur, quoi. C'est-à-dire on l'écarte, alors que pas du tout. Celui dont on devait s'incarter et qui disait « je suis impur », c'est celui qui avait dit de la médisance. Alors lui, oui, en effet, il veut vivre l'expérience d'être à l'écart, mais parce qu'il avait dit des paroles destructrices. Mais sinon, cette impureté au contact d'un mort, ou alors à travers ce cycle, ou à travers les différents exemples que j'ai donnés, n'est pas péjorative. Et pourquoi les Kohanim alors ? Eh bien parce que les Kohanim, en premier lieu, les prêtres sont liés au temple, ils y sont connectés de manière plus forte, et donc on ne peut pas faire le service et on ne peut pas s'inscrire dans cette possibilité-là si on est en contact avec l'impureté. Mais il y a aussi une autre lecture que je trouve très intéressante et que je voudrais aussi partager avec vous. Cette lecture, j'ai peur de ne pas citer le nom de la bonne personne de qui je l'ai entendu, mais c'est un enseignement que j'ai entendu d'un maître et que j'ai trouvé passionnant. Il disait, regardez au fond, les Kohanim, les prêtres, eh bien, leur histoire commence avec quelqu'un qui s'appelle Aharon, Aaron le grand prêtre. Or, on sait que quand le temple, le sanctuaire, pardonnez-moi, du désert est inauguré, eh bien, le feu du ciel n'arrive pas tout de suite. Aaron est très bouleversé parce qu'il a vu dans l'architecture du Misbéar, de l'autel, quelque chose qui l'a fait penser au veau d'or. Alors, le Talmud nous explique qu'il a vu là-bas comme deux pointes qui lui ont rappelé les cornes, qui elles-mêmes peuvent ramener à la vache, qui elles-mêmes au veau. Et donc, il s'est dit « Waouh, c'est sans doute moi, au fond, qui est responsable. Je suis encore toujours sous le coup de l'erreur que j'aurais pu commettre au moment du veau d'or, puisque rappelons-nous que Aaron avait été présent à ce moment-là. Et Aaron est très bouleversé. Il se remet en cause. Et donc ?» Eh bien, rappelons-nous de cet enseignement qui nous dit que lorsque quelqu'un est tiré par le bas, qu'il se rend compte qu'il ne va pas dans la bonne direction, alors comment fait-il pour reprendre ses esprits ? Comment un juif fait-il pour s'élever et ne pas tomber dans les filets du Yetzer Hara, de tout ce qui le pousse, pardonne-moi, à gâcher son existence ? Eh bien, il y a marqué, il doit dire le schéma. Le schéma Israël, cette phrase dans laquelle on se rappelle que nous sommes connectés au créateur de l'univers et que donc nous devons nous inscrire dans un désir de grandeur. Mais on dit, mais si ça ne suffit pas, si cette conscience de la grandeur qui est présente chez nous et qui doit nous habiter n'est pas suffisante pour nous aider à résister à cela, alors, eh bien, on doit se rappeler du jour de notre mort, parce que tout simplement, ça nous remet les idées en place. Mais, disent nos maîtres, Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, eh bien, a montré que lorsqu'il était confronté à quelque chose qui lui rappelait une remise en cause, alors il était capable de se remettre en cause. Quelqu'un comme ça n'a pas besoin d'être confronté à la mort pour pouvoir se remettre en cause et être dans un mouvement ascendant. Il y a une idée ici très très forte. Et rappelons-nous que Dieu dit à propos du peuple juif, « Atem tioulim amlechet kohanim » Vous devez être, vous êtes vous aussi un peuple de prêtres. Ça veut dire quoi? Les Kohanim qui servent dans le temple de Jérusalem sont les descendants de Lévi, mais nous pouvons être aussi à leur image, des personnes qui n'auront pas besoin de nous confronter à des remises en cause via des événements difficiles. Et c'est pour cela que les Kohanim, en effet, vous savez vous remettre en cause lorsque vous avez tout simplement voilà, ce misbéar, cet autel qui vous rappelle la faute et qui vous dit « Oula, attention, il faut grandir ». Alors, est-ce que Monsieur Cohen d'aujourd'hui y arrive? J'ose espérer que oui, mais c'est peut-être pas si sûr que cela, parce que c'est pas simple, mais c'est ce que représente le concept de la Kohuna. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que d'abord, la notion de pureté et d'impureté n'ont rien de péjoratif. C'est une adaptation ou une inadaptation à la rencontre avec la dimension de l'infini. Les Kohanim, parce qu'ils sont en contact avec cette dimension de l'infini à l'intérieur du Mishkan, à l'intérieur du Beth Amikdash du Temple, doivent être particulièrement vigilants à cela parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans l'infini alors que la notion de finitude est encore présente chez nous. Mais autre enseignement aussi, les Kohanim nous apprennent que eh bien, la notion de mort, la notion de ce qui, toutes ces choses-là qui peuvent nous remettre en cause, eh bien, on n'est peut-être pas obligé de passer par cela pour grandir. On a le droit, en effet, de décider de grandir en voyant dans le monde qui nous entoure des propositions de remise en cause dans tous les domaines et sur la base de ça, eh bien, le point de départ de mouvements d'existence qui tendent vers le haut. Voilà, tout petit peu, très rapidement, quelques notions sur ce concept et qui sont en effet fondamentales et qui peuvent nous permettre en effet de savoir mieux vivre ces notions dans notre quotidien.
Philippe Lebel, merci. Merci aussi d'avoir rappelé que donc cette idée d'impureté telle qu'on la comprend souvent, ben non, c'est pas ça, c'est ce que vous avez dit. Ça permet aussi d'ailleurs de dire que des fois aussi les hommes, ils se sentent rejetés. Hein. Moi, je peux vous dire, ça peut donner quelque chose à quelqu'un, il dit tiens, pose-le sur la table, c'est pas toujours facile à vivre. Et donc essayons effectivement de vivre ça en comprenant que ça n'a rien de péjoratif, je ne fais que reprendre vos mots. Et je vous remercie, Ravi de le mettre. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom. Rav Mordechai, on va réfléchir à une idée très importante, puisque nous tous, je crois qu'on en parle souvent, c'est l'idée de Kiddush Hashem. Mais Kiddush Hashem, sanctifier le nom divin, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Oui, effectivement, cher Bernard, donc dans la paracha, paracha Témor, qui était connue comme étant la paracha des Kohanim, il y a effectivement cet ordre de sanctifier le nom divin, d'opérer, de faire des Kiddush Hashem, des sanctification du nom divin, et l'interdit effectivement, au contraire, de profaner le nom divin. Alors je vais vous raconter une histoire qui est racontée dans la Gemara, dans Baba Batra, le traité Baba Batra, à la page 10, et il nous est rapporté là-bas que nos Chachamim, au sujet donc de cette grandeur de ceux qui sanctifient le nom divin, rapporte l'histoire de deux frères, Lulianus et Papus. Ils étaient deux frères qui étaient extrêmement droits et vivaient à l'époque de Rabbi Akiva. On raconte qu'à cette époque, donc, la fille de l'empereur romain Trajan a été retrouvée assassinée et on a, comme d'habitude évidemment, imputé le crime, je vous le donne en mille, aux Juifs. Donc l'empereur a menacé d'exterminer les Juifs puisqu'il ne savait pas lequel d'entre eux était coupable. Donc on avait un décret d'extermination sur les Juifs. Deux frères, Lulianus et Papus, vont avouer ce meurtre. Ils sont condamnés à mort donc par les tribunaux romains, mais l'empereur sait très très bien qu'ils sont innocents et qu'ils se sont tous les deux proposés en quelque sorte pour être exécutés à la place du vrai coupable. Pourtant, ça ne change rien, le décret de mort n'est pas aboli. Et Trajan va dire quelque chose d'absolument horrible. Il va dire « Vous êtes le peuple de Hanania, Michel et Azaria. » Hanania, Michel et Azaria étaient trois juifs qui ont sanctifié le nom divin à l'époque de l'empereur Nabucodonosor, qui avait érigé une statue représentant, donc le représentant lui, exigeait que tout le monde se prosterne devant lui. Et bien qu'il n'y ait pas réellement d'acte d'idolâtrie à se prosterner devant une statue représentant l'empereur, trois juifs avaient refusé donc de se prosterner et ils étaient condamnés à mort, mais ils ont été miraculeusement sauvés. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente et miraculeusement, ils ont été sauvés. Alors l'empereur leur dit, vous êtes de ce peuple-là. En fait, pourquoi vous vous dénoncez? Parce que vous savez très bien que vous bénéficierez d'un miracle et que vous ne mourrez pas. Et voilà la réponse de Louis-Janus et Papus. Elle est très intéressante parce qu'elle jette une lumière très très précise sur ce qu'est le Kiddush Hashem et en même temps sur la dimension humaine et morale que l'on doit avoir lorsque l'on pense au Kiddush Hashem, au sanctifié du nom divin. Et les deux frères lui répondent la chose suivante. Ils lui disent, nous, on ne s'est pas livrés dans l'espoir d'être sauvés. Hanania, Michel et Azaria étaient des justes parfaits, ce qui n'est pas notre cas. Et ils méritaient un miracle. Et surtout, surtout, Nabucodonosor était un empereur de haute valeur, entre guillemets, parce qu'après le miracle, il a reconnu la puissance divine. Alors que toi, même s'il y a un miracle, de toute façon, tu ne te prosterneras pas devant Dieu, tu ne quitteras pas l'idolâtrie et tu resteras un être abject et inique. Et d'autre part, sache autre chose. Ton décret n'est pas la cause de notre mort. Pour une raison ou pour une autre, Hachem a décidé que nous devons mourir. Et Hachem a de nombreux agents. Hachem, Dieu a de nombreux agents pour exécuter ses jugements. Ça peut être un ours, ça peut être un lion, ça peut être une panthère, ça peut être quoi que ce soit d'autre. Mais il t'a choisi toi. Toi, parce que tu es un être horrible, tu es un être assassin. Et que il faut, en quelque sorte, entre guillemets, alors ils ont pas dit ça, mais c'est ça l'idée, t'encourager dans le mal pour que tu puisses encore, pour que tu puisses être encore plus mauvais et donc que tu puisses mériter un châtiment encore plus terrible lorsque tu seras dans l'autre monde. Et donc, je referme la parenthèse. Et donc, il t'a choisi pour agent, afin de pouvoir te châtier, d'avoir mis à mort deux hommes innocents. Effectivement, Trajan n'a pas bougé, et ces deux hommes ont, Lulianus et Papus ont donc été tués. Effectivement, Trajan plus tard, l'empereur Trajan, eh bien, la vengeance en quelque sorte du ciel est arrivée, puisque quelques temps plus tard, il a été tué. Et ce sont deux nobles romains qui l'ont assassiné en lui brisant la tête, donc à coups de pieux. Alors que nous enseigne cette histoire? Tout au long des âges, tout au long des générations, et des milliers de juifs se sont donné la mort plutôt que de transgresser l'interdit de l'idolâtrie. Ça a été à l'époque des persécutions romaines, plus tard à l'époque des persécutions byzantines, plus tard dans le monde arabe, dans le monde musulman, où la fiction du narratif de certains nous fait croire que tout a toujours été rose. Pas du tout. Le Rambam écrit que ceux qui nous ont persécutés le plus atrocement, à l'époque, dit à son époque, le Rambam, il dit ce sont les musulmans, étaient extrêmement féroces avec nous. Et puis, évidemment, à l'époque des croisades, de l'Inquisition, etc. Des milliers de juifs se sont donné la mort. Mais il y a là ici quelque chose de très intéressant. C'est que ceux qui partent en Kiddush Hashem dans les périodes de persécution ne sont pas des gens qui attendent le miracle. Ce sont des gens qui sont fidèles à leur foi et à leurs valeurs. On voit que Avraham Avinu, par exemple, au moment où l'empereur Nimrod le menace de mort, il dit « Tu peux me jeter dans la fournaise ardente ». Il va être jeté dans une fournaise ardente à Orcasie, mais il va être là miraculeusement sauvé. Il avait un frère qui lui attendait de voir ce qui allait se passer pour Avraham Avinu. Et lorsqu'il a vu qu'Avraham avait été sauvé, il a dit « Non, moi je suis du côté d'Avraham ». Il a été jeté dans la fournaise et il a été brûlé. Et on voit que tout au long de l'histoire du peuple juif, ceux qui se sont jetés dans les fournaises ardentes au nom du Kiddush Hashem, de la sanctification du nom divin, n'attendaient pas de miracle. Ils affirmaient une valeur. Avraham Avinu, par exemple, va rentrer dans la fournaise ardente avec un doute. Il dit, moi, je comprends qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Mais est-ce que ce Dieu va s'occuper de moi maintenant? Je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que moi, je vis selon mes valeurs. Et lorsqu'il saute dans la fournaise ardente, Hachem lui apparaît, lui dit, tu sais, le feu, c'est moi qui décide s'il brûle ou pas. Et là, Avraham va vivre de manière intime, en quelque sorte, l'expérience d'un Dieu qui exerce une providence particulière sur chacun d'entre nous, sur la matière elle-même. Le fond de l'affaire est là. Le Kiddush Hashem, la proclamation du nom divin, elle consiste surtout dans le fait de vivre selon des valeurs. C'est-à-dire que si à un moment donné, eh bien, je ne peux plus vivre selon ces valeurs, eh bien, je peux accepter la mort. Et il y a là ici une idée fondamentale, c'est que la mort al Kiddush Hashem par la sanctification du nom divin, c'est d'abord la vie al Kiddush Hashem. C'est d'abord la vie selon les valeurs. Les gens qui sont partis en défendant ces valeurs, c'était des gens qui vivaient selon ces valeurs, qui croyaient dans ces valeurs. Et de là, l'idée tout à fait fondamentale que nous disent très souvent nos maîtres, c'est qu'il est plus difficile de vivre al Kiddush Hashem en sanctifiant le nom divin que de mourir al Kiddush Hashem, que de mourir en sanctifiant le nom divin. Parce que le fond de l'histoire, c'est est-ce que je véhicule des valeurs qui sont des valeurs de sanctification du nom divin. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara, lorsqu'elle se penche sur l'interdit de profaner le nom divin, donne des exemples qui sont très triviaux. Elle ne dit pas que profaner le nom divin, c'est se livrer à l'idolâtrie. Oui, bien sûr, c'est profaner le nom divin. Mais où est-ce que ça démarre, la profanation du nom divin? C'est lorsque quelqu'un qui est un grand sage, connu comme étant un grand sage, d'accord, dit la chose suivante, il dit « Je rentre maintenant chez un boucher, ceci se trouve dans la Gemara Yoma, à la page 86, je rentre maintenant chez un boucher, et au lieu de payer ma viande immédiatement, eh ben, je paierai plus tard. » Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont voir vont croire qu'en fait, on peut acheter à crédit chez le boucher, puis finalement, ils croiront qu'on peut faire trader le paiement. Ils vont apprendre de moi, finalement, qu'on peut, retarder le paiement de ces obligations vis-à-vis de quelqu'un qui nous a donné un service. Bref, ils vont apprendre, d'une certaine manière, à être des voleurs. Où commence le Kiddush Hashem, la sanctification du vin, du nom divin, et où commence au contraire, le chiloul, la profanation du nom divin, dans des choses qui sont très quotidiennes, mais qui incarnent des valeurs. Les sages d'Israël nous disent, comment tu te comportes dans tes affaires? Comment tu te comportes vis-à-vis de l'autre? Comment tu te comportes dans ta relation quotidienne? Là commence la sanctification du nom divin, et là, et commence la profanation du nom divin. Et donc on voit cette idée dans la paracha finalement que il y a effectivement cette idée de parfois de vivre des épisodes héroïques où des gens partent, n'est-ce pas, pour la grandeur du nom divin, pour la grandeur de la Torah. Mais en fait tout ça provient d'abord d'une vie au quotidien, d'une capacité au quotidien de véhiculer des valeurs grandioses dans notre quotidien. Tout ceci me conduit à rappeler cette idée qui est une idée fondamentale. Et si une personne qui est considérée comme une personne religieuse se conduit d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre, on est ici dans le Chiloul Hashem. On est ici dans la profanation du vin. Et si au contraire, cette personne qui est considérée comme religieuse aux yeux des autres va honorer la Torah par une conduite noble, une conduite généreuse, elle sanctifie le nom divin. Mais d'une manière générale, chacun d'entre nous, chaque juif, partout où il est un véhicule du message divin. Et donc, il faut dépasser ce cadre-là. Ce n'est pas seulement les religieux qui font des kiddush Hashem, des sanctifications du divin, ou au contraire des chiloul Hashem, chas v'shalom, qui profanent le nom divin. Chaque juif par son comportement, en public, dans les affaires, partout où on le connaît comme juif, bien doit savoir qu'il est le véhicule du message divin. Et s'il se comporte de manière inique ou injuste, ou cruelle, ou qu'il commet des méfaits, mais effectivement, il profane le nom divin. Mais si par contre il se montre juste, droit dans ses affaires, juste et droit dans son rapport à l'autre, il se montre bienveillant, il sait se montrer aussi à la fois juste et précis dans son jugement et dans sa manière de se comporter, et il sait également faire preuve de générosité, et bien là effectivement il va véhiculer, il va être un véhicule donc de sanctification du nom divin, de sanctification de la Torah. Hein, et c'est une responsabilité. La paracha ici, en fait, vient nous rappeler la responsabilité que nous avons chacun d'entre nous dans notre comportement au quotidien. Et si on sait effectivement vivre ces valeurs au quotidien, eh bien, on peut penser qu'un jour, si un jour, chas v'shalom, on se retrouve dans des situations dramatiques, ben, on saura effectivement sanctifier le nom divin et on saura faire preuve de grandeur d'âme, puisqu'on aura su faire preuve de grandeur d'âme dans notre quotidien.
Rav Mordechai, merci. Et je vous souhaite Shabbat Shalom. À Jérusalem.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Alors vous souhaitez intervenir ce soir sur deux passages de notre paracha, parachat Emor. Et alors d'abord déjà une fois, on peut lire « Et je serai sanctifié, sanctifié », c'est Hachem qui parle. Une autre fois, on nous parle du Shabbat, et donc vous voulez nous expliquer, nous illustrer ces deux passages en nous disant comment est-ce que, enfin, en faisant justement la liaison, la sanctification de Dieu, le Shabbat, si j'ai bien compris.
Alors, je vais vous expliquer, effectivement. Venikdashti betor bene Israël est un verset qui se trouve au chapitre 22, à la fin du chapitre 22. Et comme le rappelle le Ramban, Nachmanide, Aldat Ravoteno, c'est une mitzvah positive. C'est-à-dire que nous soyons prêts à donner notre vie pour ne pas transgresser une mitzvah de la Torah. Alors, évidemment, on parle des trois mitzvot bien connues, Avodah Zarah, la transgression qui serait celle de servir l'idole, ou bien Shrichut Damim, assassiner, et Gilui Ariot, avoir des relations interdites. Pour ces trois mitzvot, on doit être prêt à donner sa vie plutôt que de les transgresser. Ça, c'est la mitzvah de Venik Dashti, de Tor, Bene Israël. Je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël. Justement, quelques versets plus tard, mais en fait, quatre versets plus tard, juste après le réveil, on nous apprend la mitzvah du Shabbat. Sheshet Yamim Te'ase Melacha, Ubayam Ashi, Shabbat Shabbaton, la fameuse mitzvah du Shabbat, qui introduit toutes les fêtes de l'année. Puisqu'après, dans le Parashat des Morts, on raconte, on rappelle les obligations du Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Alors, en fait, je me suis rappelé d'une intervention du Shlomo Wolbe, donc que j'ai entendu, je l'ai écouté, et qui nous faisait remarquer la chose suivante. Vous savez que lorsqu'on lit le schéma, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, le premier verset, le deuxième verset du schéma, tu aimeras Hashem ton Dieu, Ve'chol levavcha ou Ve'chol nafshecha, tu l'aimeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Il est écrit dans les commentateurs qu'il est bon à ce moment-là de penser qu'on serait prêt, par amour pour Hashem, même de donner notre vie. Ce que nos frères ont fait pendant toute l'histoire, malheureusement de très nombreuses fois, ils ont donné leur vie, pour, par exemple pendant l'Inquisition, pour continuer à pratiquer leur religion, pour ne pas transgresser, ne pas se prosterner devant les idoles. Et donc, Venik Dashi Vetor Ben Israël, c'est donc penser, et la mitzvah de V'chol Levavcha ou V'chol Nafshecha, aimer Hachem de tout son âme, c'est la même chose, c'est être prêt à tout donner, même sa vie, pour Hachem. Alors il dit souvent, il nous faisait de représenter un homme qui, chaque fois, lisant le schéma, pense à donner sa vie. Mais lorsqu'il s'agit de se lever le matin, parce que c'est l'heure de faire la prière en communauté, il reste encore 5 minutes au lit, puis après encore 5 minutes, puis après grand 5 minutes. Et donc finalement, il est prêt à donner sa vie devant, pour ne pas commettre une très grave faute. Mais par contre, il n'est pas prêt à faire l'effort de se lever le matin pour aller à l'office. Alors, en fait, il voulait nous dire, attention, Dieu, effectivement, nous demande de mourir pour lui, mais d'abord, il nous demande de vivre pour lui. C'est-à-dire d'accomplir les mitzvot, même si ça nous coûte, et même s'il ne s'agit pas de donner sa vie, mais des fois, c'est plus difficile. Vous savez, les petits efforts du quotidien, ce n'est pas facile, et ça demande un gros effort. Et il demande d'être sanctifié de toutes les façons, et il ne faut pas penser, il faut bien penser à la contradiction que serait d'être prêt à donner sa vie, alors qu'on n'est même pas prêt à donner quelques minutes de sommeil pour honorer son Créateur. Et en fait, lorsque je citais tout à l'heure la proximité avec le Shabbat, je voulais justement illustrer la Netzivut Nefesh, le don de soi que représente le Shabbat, par rapport justement à cette mitzvah de Venikdashti Betor Ben Israël. C'est-à-dire combien les Juifs ont été prêts à faire des efforts et des sacrifices pour respecter le Shabbat. Et je voulais donner une illustration qui m'a plu, parce que effectivement c'est une histoire qui est très parlante. Il s'agit d'une personne qui habitait aux États-Unis, qui habite toujours aux États-Unis d'ailleurs, qui est un grand soutien de Torah, un homme très, très religieux, très pratiquant, lui et ses enfants, et ses petits-enfants. Et un jour, quelqu'un lui a dit, mais comment tu as réussi à rester religieux, parce que il faut voir que dans les années, au début du XXe siècle, beaucoup de Polonais, de Juifs polonais, faisaient leur allié, entre guillemets, aux États-Unis, le pays de l'or. Et malheureusement, beaucoup se sont assimilés pour une raison très simple, c'est qu'il fallait travailler tous les jours, et le Shabbat inclus. Donc au départ, les Juifs polonais, très fervents, se refusaient de travailler le Shabbat. Mais très vite, parce qu'ils étaient licenciés à chaque fois, eh bien, souvent, il craquait, il commençait à travailler le Shabbat. Alors, justement, ce monsieur nous raconte que son grand-père, qui a fait partie de Pologne et qui s'est installé aux États-Unis, a eu le même problème que tout le monde. Et il revient donc un dimanche, il n'est pas venu travailler la veille, donc le Shabbat, il rentre le dimanche avec sa femme, il dit voilà, De nouveau, j'ai-t-il licencié, mais ça fait des mois et des mois que chaque semaine, il est licencié. Il perd un peu espoir, et puis ce qui devait arriver, arriva. Son propriétaire le met dehors, lui et toute sa famille. Il se retrouve dans la rue. Alors à ce moment-là, il ne sait plus où aller. Il est dans la rue, il erre avec sa femme et ses enfants. Et il y a quelqu'un qui les rencontre et leur dit « Écoutez, je vois que vous êtes perdu, vous cherchez quelque chose. » Et il lui propose, il leur propose, lorsqu'il entend qu'ils n'ont pas d'endroit où se loger, il leur propose de venir et de dormir en fait dans une maison, mais pas dans les étages, mais dans les sous-sols où il y a la chaufferie. Il dit « Voilà, vous pouvez mettre des matelas et vous allez dormir près de la chaufferie. » Donc ils dorment près de la chaufferie et évidemment leurs visages sont pleins de suie. C'est évidemment extrêmement désagréable, mais ils n'ont que ça. Et ils acceptent en silence malgré voilà, ils respectent le Shabbat et c'est comme ça. Ils n'ont pas de parnassa, c'est pas facile. Et un jour quelqu'un passe à côté et il voit donc un enfant de cette famille et qui parle yiddish. Il dit tiens regarde il y a un noir qui parle yiddish. Vous compris? Qu'il était noir, mais qu'il était noir de suie. Il avait cru que c'était un noir de peau. Et il dit qu'il y a un noir qui parle yiddish. Donc il est étonné, il s'approche de lui, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il explique ce qui se passe, qu'ils sont dans une situation très, très délicate. Et cet homme, il sort un chèque, il dit voilà, je vais vous faire un chèque de 500 dollars. Et s'il vous plaît, achetez-vous une affaire. Et 500 dollars de l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et refaites votre vie, essayez de gagner votre vie sans travailler le Shabbat. Vraiment un don magnifique et spontané. Et cet homme rentre chez lui, enfin chez lui, dans la chaufferie, et il va voir sa femme et lui dit, voilà, super, on a une très bonne nouvelle, j'ai un chèque de 500 dollars. Et sa femme lui dit, mais de qui tu l'as? Alors il raconte, mais est-ce que cet homme est chômeur Shabbat? Il lui répond, non, je pense pas qu'il est chômeur Shabbat. Et après vérification, effectivement, il n'est pas chômeur Shabbat. Alors sa femme lui dit, tu veux qu'on prenne cet argent, que l'on monte une affaire, et que finalement, on éduque nos enfants, on les nourrit en étant associé avec quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Si tu te paieras le chèque, on ne le prendra pas. Et l'homme qui reçoit de nouveau son chèque, le donateur, qui finalement n'a pas la possibilité de faire son don, est très étonné, il rentre chez lui, il raconte à sa femme, il dit voilà ce qui m'est arrivé. Et sa femme, elle a une réaction incroyable. Elle court dans la chambre à coucher, elle pleure pendant 2 heures. Après ces 2 heures, elle ressort et elle dit à son mari, tu sais, nous aussi, on est venus de Pologne, et moi aussi, j'ai toujours voulu respecter Shabbat, et toi aussi, tu as voulu, mais on a craqué. On respecte plus Shabbat, on gagne bien notre vie, mais on n'a plus Shabbat. Et moi, franchement, je n'en peux plus. Mais jusqu'à présent, je pensais que ce n'était pas possible. Mais lorsque je vois les sacrifices que font cette famille, je me dis, bon, c'est possible. Si on veut vraiment, il faut tout donner pour le Shabbat. Alors, s'il te plaît, je te demande, à partir de maintenant, de respecter le Shabbat. Alors son mari pense que c'est juste un petit moment où elle est un petit peu émue, mais finalement elle y tient, elle lâche pas, et son mari va respecter le Shabbat. Et il retourne voir cette famille en disant « Écoutez, je vous donne les 500 dollars, maintenant vous pourrez les prendre, parce que je suis devenu un chômeur Shabbat. » Et donc comment l'acte de Messie au Nefesh, comment les Juifs ont été capables de respecter le Shabbat en faisant des sacrifices énormes. Et d'ailleurs, ce monsieur dont je parlais, qui était un grand soutien de la Torah et un homme qui a bien réussi l'éducation de ses enfants, il disait, voilà, je suis le descendant, le petit-fils de ce monsieur qui était prêt à dormir dans une chaufferie et le petit-fils également de l'autre côté de ce donateur. Et finalement, voilà, c'est comme ça, c'est grâce à eux qu'on a respecté, on a gardé la méthode du Shabbat. Et je voulais vous dire qu'effectivement, cette notion de Kiddush Hashem, sanctifier mon Hachem, c'est d'abord vivre un Kiddush Hachem. Avant de penser à mourir pour donner sa vie à Hachem, il faudra penser à donner tous les nos instants, toute notre vie à Hachem, c'est-à-dire tous nos instants, tous nos efforts du quotidien, ce qui est très difficile, peut-être des fois plus difficile encore que donner sa vie. Évidemment, donner sa vie, c'est un sacrifice suprême, très incroyable. Mais donner chaque instant de sa vie pour Hachem, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Et je voulais terminer en vous rappelant une histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, vous savez, cet homme dont le nom renom a traversé le globe, eh bien, un jour, il a eu un problème. Dans sa yeshiva, il y avait un jeune bachour, un jeune élève, qui a transgressé Shabbat, qui a fumé Shabbat. Alors, il le faisait un peu volontairement, quoi. Il savait bien que c'était interdit de fumer Shabbat, mais il le faisait quand même. Et après plusieurs fois qu'on lui avait expliqué que c'était grave, les rassés rabbinim lui avaient dit que c'était grave, ils l'ont mis dehors. Mais avant de partir, elle leur dit « Va voir le Chafetz Chaim ». Le Chafetz Chaim l'a reçu, Et en sortant, il avait les yeux rougis et il avait l'air d'être très, très ému. Alors on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce? Il a dit, écoutez bien, je suis arrivé dans cette pièce, j'ai très peur. Je me suis dit, le Rav Etrain va me crier, va m'accuser de tous les noms. Ouais, tu es un renégat, tu ne respectes pas le Shabbat. Il m'a dit non. Le Rav Etrain a pris ma main, dans ses mains, et il m'a caressé la main. À un moment, comme un papa qui prend son fils, qui lui caresse affectueusement, et il m'a pris ma deuxième main, et il a levé la tête, et j'ai vu qu'il pleurait. Et une larme est tombée sur ma main. Et lorsque j'ai senti, il disait, le Rav Etrain, il n'a pas dit grand-chose, il a juste dit deux mots. Shabbos. Il disait Shabbos Koïdesh. Heilige Shabbos. Ça veut dire le Saint Shabbat. Il n'a rien dit, il a pleuré. Et les larmes sont tombées sur les mains de ce juif qui avait fumé le Shabbat. Alors en fait, ce juif, en sortant de cette pièce, il n'a plus jamais transgressé le Shabbat. Parce que la chaleur de cette larme du Rav Etrain ne l'a jamais quitté pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et je voulais dire qu'en fait, pour expliquer aux gens le Shabbat, il faut d'abord que nous soyons comme le Rav Etrain, conscients de sa grandeur, de sa sainteté. Et en fait, finalement, la plus grande réprimande, entre guillemets, c'est de montrer à un autre juif la grandeur, la beauté du Shabbat. Être capable de pleurer avec un autre juif de certains Shabbat pour tout simplement lui donner envie, lui aussi, de comprendre la grandeur du Shabbat. Alors, effectivement, on n'est pas tous de Rav Etrain, mais le Rav Etrain a fait quelque chose d'énorme, de pouvoir faire une tochacha sans rien dire, sans accuser, sans humilier, mais au contraire, en lui montrant l'importance du Shabbat pour nous. Alors, je voulais dire à chacun d'entre nous, sanctifions le nom d'Hachem, on est dans quelques minutes dans Shabbat, quelques heures dans Shabbat, sanctifions le nom d'Hachem en respectant le Shabbat, en faisant envie aux autres de le respecter, en donnant envie aux autres, et en montrant la grandeur du Shabbat, et quel cadeau magnifique c'est le Shabbat. Et je terminerai en disant juste que le Rav Etrain, un jour, a dit à un juif, il posait la question à un juif qui était un peu justement fragile au niveau du Shabbat, il lui a dit, dis-moi, lorsque tu vois sur une boulangerie, c'est écrit « boulangerie », en grand sur la boulangerie, dis-moi, quand est-ce que tu, lorsque tu pars en vacances, tu enlèves le mot boulangerie, tu détaches l'affiche, il me dit, non, évidemment que je la laisse, je reviens dans quelques jours. Et lorsque tu tombes malade, tu l'enlèves? Non, pas du tout, je reviens dans quelques jours. Alors, il lui a dit, mais le jour où tu l'enlèves, cette pancarte boulangerie, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que j'arrête totalement mon activité. Il dit, sache qu'un juif, tant qu'il garde le Shabbat, c'est comme s'il avait toujours sur lui une grande affiche. Je suis un juif, je suis attaché à Kadosh Baruch Hu. Le jour où il abandonne le Shabbat, c'est un événement, c'est fort, c'est un acte très fort. Il ne faut jamais abandonner le Shabbat, parce que c'est un peu notre ce qui nous relie au judaïsme. Même si des fois c'est difficile, même si des fois c'est compliqué, ne jamais détacher, démonter l'affiche, qui montre, un Arno Yehudim. Le Shabbat est un grand moment, et je vous souhaite à tous de vivre dans la paix, dans le respect du Shabbat, et aussi en donnant envie à nos frères de le faire et de nous rejoindre dans les synagogues et dans les tables de Shabbat qui sont tellement belles et donnent tellement envie à ceux qui connaissent le Shabbat et savent que c'est le plus beau jour de la semaine, même si on n'a pas le droit de regarder la télé ou de regarder son portable, même si on n'est plus au courant de ce qui va se passer dans le monde, même si on n'assiste pas à la retransmission du couronnement de Charles III, c'est un Shabbat Kodesh qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons connaître par ailleurs dans le monde. C'est un grand, grand cadeau qu'Hachem nous a fait. Shabbat shalom à tous.
Shabbat shalom, Rav Gay. Vous me donnez l'occasion de rappeler un enseignement qu'on attribue au Rabbi de Lubavitch qui dit ne rajoute pas, là où il y a de l'obscurité, ne rajoute pas de l'obscurité, mais de la lumière. Et c'est vrai, hein, il est connu cet enseignement.
Ouais, c'est vrai.
Et il va 100% dans ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai que dans de nombreuses familles, des gens qui écoutent la radio en ce moment, des fois, un enfant par exemple, un fils, une fille, lâche sur Shabbat, ou des fois son frère vient à la maison, on sait qu'il est pas. Enfin bref, on connaît tous ces situations-là. Et c'est important dans la ligne droite de ce que vous dites, de souligner, mais vous le ferez évidemment mille fois mieux que moi. C'est pas obligé de faire des reproches. Montre à quel point c'est beau. Juste le contraire. Celui qui vient manger et qui n'a pas l'habitude de venir manger le vendredi soir, que le repas soit encore plus chaleureux. Dès ce soir, d'ailleurs, tout le monde peut le faire. Encore plus de lumière. Rajoute pas de l'obscurité, pas de reproches, pas de cris, forcément. Moi, je ne suis pas pédagogue, encore moins Rav, mais fais en sorte que ce moment-là où ce membre de ta famille va venir te voir et que tu sais qu'il n'est pas très rigoureux sur la question de... Ben, fais juste en sorte que Shabbat soit encore plus beau. C'est comme ça que tu lui en parleras. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, Avg?
Mais tout à fait, tout à fait. Mais j'ai même l'exemple de Rav Abel lui-même qui a eu des fois une période où il y avait son fils qui ne faisait plus Shabbat. Et ah oui. Qu'il recevait avec une telle... Il même une fois, même pas une période, son fils, il mettait même la clé... il faisait un peu... Il faisait bien entendre la présence de ses clés de la voiture dans ses poches. Et son père ne l'a jamais réprimandé. Il l'embrassait, il l'accueillait avec beaucoup d'amour. Et finalement, Baruch HaShem, il est redevenu Shana Shabbat.
C'est beau. De Rav Albeu, c'est énorme. Ouais. Rav Gué, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Au revoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée et c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom.